Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien par les temps qui courent. C'est tous les soirs une heure passée avec un ou une artiste. Ce soir, Albert Serra.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, taper.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richer avec Albert Serra.
Dans un bois, ou plutôt un très onirique décor de bois, des regards d'humains ressemblent à des regards d'animaux. Un lapin dans les phares, une biche au détour d'un chemin, un renard, une poule même, ou des chiens. Les yeux sont ahuris, comme étonnés d'être ici, d'énoncer leurs fantasmes, de faire des plans, et puis d'en jouir. À la fin du XVIIIe siècle, chassés de la cour de Louis XV pour leur libertinage, ils sont une communauté qui fuit et qui se cache. Pour mener à bien leur révolution, ils ont besoin de femmes qui en connaissent le prix radical, des femmes aux yeux ouverts, elles aussi, qui n'ont peur ni de la souffrance ni de la mort, tant qu'il y a du plaisir et du verbe. Tantôt dans l'exiguïté d'une chaise à porteurs, tantôt dans l'obscurité des arbres, on pétrit des seins, lèche des anus, pénètre, écartèle ou frappe, mais même quand elles crient ou râlent, les voix restent sourdes et hypnotiques, comme si vous ne cherchiez pas tant à montrer, Albert Serra, plutôt qu'à sonder nos propres imaginaires. Votre film Liberté est en salle mercredi, il a obtenu le prix spécial du jury dans la section Un certain regard, au dernier festival de Cannes. Bonsoir Albert Serra. Soyez le bienvenu. Avant qu'on rentre plus précisément dans votre film, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez comme relation avec le mot liberté.
Bon, c'est essentiel, non? Surtout pour les artistes qui sont nés un peu avec une idée à moins de liberté d'expression très très forte. Et bon, après, non, dès que tu grandis un peu, tu essaies d'être fidèle à, surtout, a beaucoup d'artistes du passé, no?, que han representat surtout cette liberté d'expressió. Et pour moi, c'est que ça, en tant qu'artiste.
Pour vous, quand vous entendez liberté d'expressió?
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, no?, il y a tellement de contraintes et l'organització de la société, il y a tellement construït d'una façon, no?, très bien evolucionée, basée sur le respect, etc., que, bon, envisager una liberté com on lire dans les romans du 18e, du libertinage du 18e, etc., c'est comme impossible. Alors, bon, il faut se conformer avec la liberté d'imagination ou la liberté d'expression, qui c'est déjà quelque chose.
C'est un mot qui est arrivé rapidement pour titrer votre dernier film.
C'est un peu provocatif, non? Parce que c'est comme dire, ce que vous voyez, ça c'est la liberté. Non, c'était cette idée, mais il n'y a aucune autre ambition dans les titres que provoquer un peu.
Vous y croyez vraiment à la simplicité de cette équation? Ce que vous voyez là, c'est la liberté?
Oui, oui, oui. Ouais. J'y crois totalement, parce que bon, c'est difficile. Ce sont des extrêmes, non? Et ce sont aussi, on dirait pas si on imagine que ça c'est dans la réalité, mais au moins l'idée de, comme dire, de l'injustice, de l'abjection, non, qui puisse être présent dans la fiction, dans ces cas, je crois que c'est déjà quelque chose assez effrayant et assez subversif d'une certaine façon. Alors, non, avoir cette liberté d'imagination, c'est tout de suite la liberté pour pouvoir la, non, exprimer dans une œuvre de fiction. Aujourd'hui, qu'il y a beaucoup, surtout d'autocensure, non, beaucoup de pression, etc., comme si la fiction n'était pas cet espace totalement, non, ouvert à toutes les pratiques, à toutes les images, à tout le possible, non, même qu'inclus ça, non, comme j'ai dit, l'abjection, l'injustice, ou la violence, ou, je sais pas.
Vous la sentez peser sur vous, cette menace de l'autocensure?
Oui, oui, bien sûr.
Mais par vous-même ou par autrui?
Non, non, pour les, évidemment, c'est pour les autres, non? Tu as toujours un peu, moi, je suis peut-être, parce que j'ai fait des cinémas très petits, qu'on dit, très formalistes aussi, où le contenu, peut-être, n'est pas toujours, non? Le plus important dans la réception de l'œuvre, non? Il y a tout un enjeu de langage qui est aussi fort, et parfois, non, ce contenu peut passer un peu désaperçu. Mais, c'est vrai que, je crois que tout le monde, il y a la pression de ça, la pression d'abord de l'échec, non? La pression aujourd'hui la plus forte, je crois que c'est le succès, non? Avoir des succès. Et si le film n'est pas compris, ou si le film n'est pas aimé, ou n'importe quel livre, ou quelle œuvre, non? Après, je crois qu'il y a une pression beaucoup plus forte, pour les créateurs, et, qui l'empêche un peu de penser dans les longs termes, non? Et ça, c'est un peu triste parce que dans le passé, ou même dans les années 60, il y avait des artistes, non, qui arrivaient à créer une œuvre avec, dans les longs termes, non? De s'imposer, c'est-à-dire imposer son propre style à le monde, pas s'adapter au monde, non? À les goûts ou à la sensibilité du monde, non? Pour avoir le succès, non? Imposer, non, ton propre style, même si c'est un peu difficile, ou si c'est un peu dérangeant, ou si c'est un peu, je sais pas, hermétique, ou je sais pas. Mais essayer, avec le temps, de l'imposer, non. Aujourd'hui, cette pression, c'est forte, et l'autocensure liée à les succès, c'est très fort aussi. Après, évidemment, il y a tous les contenus, non, ce qu'on a vu réduire un peu cette idée de l'espace de la fiction comme un espace d'ouverture absolue. Aussi, mais dans ces cas, moi, je suis un peu moins, je sais pas, ça me touche un peu moins. Mais bon, je comprends qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont bon, très sensibles à tout ça. Et c'est vrai que c'est un danger.
Pour entrer dans votre film, il faut accepter ou enfin se laisser entrer dans ce bois-là. Et la manière la plus singulière de nous y inviter est une sorte de conjugaison entre notre oreille, puisqu'on entend quelqu'un qui nous parle mais qu'on ne voit pas, et nos yeux qui, à contre-temps, voient des gens mais on ne sait pas s'ils écoutent cette voix, si cette voix est en leur présence, s'ils sont dans un autre endroit. On ne sait même pas s'ils entendent exactement la voix que nous, on est en train d'entendre. Alors, on va écouter un petit peu de cette voix qu'on va dire voix off, même si c'est un peu plus compliqué que ça.
Vous connaissez l'histoire de Damien, ce pauvre homme qui a tenté d'assassiner Louis XV. J'étais là lorsqu'on l'a sorti de sa cellule. Il y avait été torturé pendant plusieurs jours, à l'aide de tenailles, de l'huile bouillante aussi. Et son visage était méconnaissable quand on l'a tiré dans la rue. Depuis mon balcon, je l'ai vu se faire attacher, chacune de ses extrémités, à 4 chevaux différents. Vous comprendrez qu'il était question d'écarteler ce pauvre homme, en public. La foule semblait apprécier le spectacle. Et l'homme gémissait tellement que j'ai dû plusieurs fois trouver un moyen pour me détourner de ses cris. Vous connaissez pourtant mon goût pour ce genre de parade. Les chevaux tirés dans 4 directions différentes l'ont progressivement écartelé. Chacun de ses membres se détachait du tronc. Mais ses tendons étaient résistants. L'homme semblait bien robuste. Et plusieurs hommes sont venus avec des couteaux pour entailler chacun de ses tendons et aider le procédé à s'accomplir. Puis, la moitié de son corps s'est détachée et à la fin, il ne lui restait plus que la tête pour hurler. Alors que son corps jusqu'au buste était détaché en plusieurs parties. Mais l'homme restait bien vivant, bien conscient. Et ses cris étaient particulièrement terrifiants. J'ai dû moi-même porter un mouchoir à mes oreilles pour ne plus entendre les cris de ce pauvre homme. Mais depuis mon balcon, j'ai pu voir 3 personnes qui jamais ne se sont détournées du spectacle et qui semblaient cultiver un goût particulièrement raffiné pour l'horreur de cette vision. Il s'agissait de 3 femmes que vous connaissez peut-être. La duchesse de Laurence, sa fille et sa sœur. Ces 3 femmes semblaient proprement fascinées par le spectacle qui s'offrait à elles. Et jamais elles n'ont cherché à se détourner du visage de cet homme, qui pourtant, je vous l'ai dit, était bien monstrueux. Vous connaissez notre situation. Nous avons dû fuir la cour. Et depuis, nous sommes bien seuls. Nos amis se font rares, et les lieux où nous sommes en sécurité le sont aussi. Nous avons besoin de telles femmes pour nous aider. Car je crois qu'aujourd'hui, ce ne sont plus nos amis, nos anciens amis, certains débauchés qui pourront faire la révolution, mais ce sont bien ces femmes-là, obstinées, dures, et qui connaissent le prix à payer pour que le monde puisse changer.
C'est donc la première voix qu'on entend, Albert Serra, dans votre film « Liberté ». C'est une voix très particulière dont le rôle est, à mon sens, primordial. Comment l'avez-vous choisie et qu'avez-vous cherché avec cette voix-là?
Bon, la voix, on le continue un peu de ce qu'il dit, cette voix. Non, c'est l'idée d'introduire un peu, comme dire, une atmosphère mentale, que c'est très important parce que, comme vous avez dit, dans les films, il y a plusieurs couches, non, de captation. Et parfois, il y a des images dans les confusions de ces points de vue que vous avez parlé. Parfois, il y a des images qui sont créées à travers du langage, à travers de la parole. Des autres qu'on les voit, des autres qu'on les imagine avec le bruit des sons qu'on entend, non? Il y a tous ces différents niveaux de fantômes, non, qui sont là, et parfois plus explicites, parfois moins explicites, parfois plus purement mentales. C'est pour ça que dans certains moments de film, on arrive à projeter notre propre perversion aussi parfois. Non, je le présente souvent ici quand je suis dans les festivals. Et non, que c'est un film un peu que vous pouvez vraiment y projeter votre rêve le plus noir. Alors ici, c'était l'idée de ça. C'est un extrait de la mémoire de Casanova, que il assistait à cette exécution, et même Foucault en parle dans Punir et surveiller, je crois. C'est comme le dernier exemple de cruauté de je sais pas, de l'État ou de, non, du système, comme avec une punition complètement disproportionnée. Et Casanova lui-même, comme les types ici, il était effrayé de que les jeunes assistaient à cet spectacle avec vraiment de fervor et d'émotion, et que tout le monde regardait ça. Il était totalement scandalisé. Alors bon, c'est pour créer un peu une ambiance déjà dégoûtante dans les films, et de voir qu'on est en face de gens un peu différents, un peu violents, un peu... Créer une ambiance déjà un peu violente depuis le début, et après, bon, ça continue avec des autres petits discours très intéressants aussi, à niveau sexuel, mais bon, on est déjà dans ce monde, un monde un peu, comme dire, où l'injustice a sa place. Non? Et ça m'intéressait beaucoup, et bon.
C'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que vous le répétez, ce mot-là, en disant que finalement une des subversions, c'est de permettre à la fiction de rendre l'injustice centrale, de pouvoir montrer des images non seulement violentes mais aussi injustes.
Oui, parce que sinon c'est tellement...
Et
oui.
Qu'est-ce que vous trouvez injuste dans la communauté des personnes qui, pendant toute cette nuit-là, au milieu du bois, énoncent ses plaisirs, les réalisent pour la plupart?
Mais il n'y a pas... Ne c'est pas si clair que ça. Tu sais, quand il y a dans le libertinage... Évidemment, on peut avoir une espèce de communauté spirituelle et ce qu'on cherche, mais il y a de la friction aussi. Et c'est cette friction-là que c'est intéressant, non? Si c'est de la pure communauté, c'est une espèce de joie d'une légèreté qu'on aime aussi, parce qu'on l'a vu aussi dans beaucoup de romans 18e, mais il y a aussi le côté, comme dire, sadien, non? Que c'est une autre petite vision un peu plus noire où, non, la imposition ou la violence exercée contre les autres, c'est un signe de grande souveraineté. J'ai aimé mélanger un peu que ça reste dans cette confusion un peu les films, et aussi c'est parce que c'est le sujet du film, c'est la logique de la nuit. Tu sais, dans la nuit, il y a le désir évidemment comme grand sujet, mais la nuit aussi. Alors la nuit a une logique différente à la logique du jour. Et on se permet, ou il y a déjà dans la perception beaucoup de distorsions, dans la perception du temps, dans la perception de l'espace, comme dans les films, dans la perception de la moralité, non, dans la propre irrégularité, non, de nos désirs, de l'arbitrariété. Non, c'est ça qui j'aimais beaucoup, qu'il y a les films ont une certaine radicalité, parce que il y a des choses totalement arbitraires. C'est même pas pervers, ça fait même pas partie d'un jeu, non? Il y a vraiment, même au niveau narratif, quelques coupures totalement gratuite, totalement quelque accumulation, répétition, non? Et là, il y a un radicalisme de l'arbitrarité que je crois que les montages soulignent un peu, malgré la sensualité générale de tout, non? De tous les montages du film. Mais bon, et ça, non, cette logique de nuit qui accepte des choses qui sont inacceptables pendant les jours, ça m'intéressait beaucoup. Je crois que c'est un film sur cette nuit du 18e, mais sur un film sur toutes les nuits, et sur notre perception un peu, non? Disloqué, je ne sais pas si c'est français ça.
Disloqué, ça va être très bien, une perception disloquée pour la nuit. Mais puisque vous parlez de perception, je voudrais qu'on reste un instant sur cette voix qui ouvre le film, parce que par son rythme, par son calme, ouais, par sa langueur presque, il décrit une scène horrible, mais il est très érotique. C'est vraiment une entrée extrêmement érotique, mais aussi hypnotique, comme si vous cherchiez un état de spectateur. Comme si vous attendiez de nous qu'on relâche notre corps.
Bien sûr. La voix, c'est très sensuel et c'était une découverte pendant les tournages, parce que l'acteur qui joue ce rôle, c'était quelqu'un que j'avais fait un casting à Facebook pour des acteurs non professionnels, spécifiquement pour des gens non professionnels. Alors je l'ai pris, mais quand je l'ai pris, je ne me suis pas rendu compte d'abord qu'il avait cette voix tellement non, séduisante, surtout dans la, comme on dit en français, la façon de parler, non, les phrases, la prosodie, non, qu'il était tellement sensuel et en même temps il était très capable de mémoriser et aussi d'inventer ou d'y ajouter avec des mots très pertinents. C'est quelqu'un qui travaille dans les éditions, dans une maison d'édition des livres. Alors, c'est comme beaucoup de choses chez moi, c'était un hasard. C'est pas un hasard, parce que quand est-ce que je suis là, mon travail dans les tournages, comme je fais jamais des essais avec les acteurs, dès que je suis là, mon travail consiste à analyser tous les éléments qu'on a, surtout les acteurs, et même profiter des qualités qu'ils ont déjà. Je demande jamais à un acteur de faire des choses, non, qu'il n'est pas capable de faire ou pour lesquelles il n'a pas une tendance naturelle à la faire bien. Alors, moi, j'analyse, je vois tout de suite qu'il a une invention, une capacité d'imagination et surtout cette prosodie hypersensuelle, et bon, on l'utilise pour ça. Et les autres, on l'utilise chacun, je crois, pour faire ce qu'ils pouvaient faire mieux. Et bon, c'est un hasard, mais c'est vrai, ça donne un calme, non? C'est le contraste entre la calme de la prosodie et le côté terrible de ce qu'il raconte, non?
C'est un récit qui fait écho à un des récits de la fin du film. Ici, il s'agit donc d'un extrait des Mémoires de Casanova avec un homme qui se fait écarteler. À la toute fin du film, il est question du Christ lui-même.
Bien sûr.
L'une des théories étant nous sommes des êtres divins parce que Dieu s'est incarné dans le Christ, mais que Christ est celui qui a le plus joui, qui a connu la plus grande jouissance par la crucifixion. Est-ce que ce sont deux récits qui se répondent à
Je ne sais pas, peut-être. Non? Là, encore, il y a cette petite provocation anticléricale en paix, très à l'époque, non? Du 18e, on le retrouve ce genre de commentaires dans beaucoup de bouquins.
Ça a l'air de vous faire pas mal rire.
Ça me fait rire, c'est vrai. Même si moi j'étais éduqué dans une école catholique, très catholique et tout ça, et c'est tout un, comment dire, une formation culturelle ou religieuse même avec laquelle j'ai grandi. Mais maintenant ça me fait, je sais pas, ça me donne une espèce de petit plaisir légèrement pervers. No? De faire encore ce genre de blagues, pas de blagues, mais des propositions qui sont son petite fond intéressante aussi. Mais bon, ce petit genre de blagues qui ont complètement disparu, no? Parce que ce sont des sujets que personne n'est plus intéressé. Il n'y a presque pas d'œuvres ou de films de cinéma où ils sont vraiment, non, attaché à ce genre de sujets religieux ou les Christ, non?
Alors, il y a Romeo Castellucci quand même.
Oui, il y a des jeunes, mais je dis que.
Un metteur en scène.
Oui, je reconnais. Très peu. Alors, bon, c'est des petites. Mais ça me fait rire, c'est vrai.
Tout à l'heure, vous parliez aussi du caractère arbitraire de votre montage, mais peut-être de manière plus générale de la façon dont tout ça se raconte ou se montre à nous. J'ai essayé dans l'introduction de dire des choses un peu rationnelles. Voilà, il y a des gens qui sont chassés de la cour de Louis XV. parce qu'ils sont libertins et qu'ils arrivent dans un bois. Bon, en réalité, on a l'impression que à un moment donné, vous vous en fichez de ce cadre de scénario.
Oui, parce que moi, quand je fabrique un film, même dans les montages, je n'ai aucune idée sur les significations de ce que je suis en train de faire, mais aucune. Alors, on dirait, comme je vous ai dit, je ne fais jamais des essais, les scénarios, c'est quelque chose que je connais que moi. Évidemment, je l'écris parce que pour les financements, etc., mais je ne les donne jamais à les acteurs. Après, même dans les montages, la façon que je montre les films, c'est totalement, je vais vous raconter très vite, mais j'ai fait les choix parce que je tourne avec trois caméras, avec des caméras qui ont de totale autonomie, les opérateurs, les unes avec l'autre, avec des prises très très longues, non, avec une espèce de chaos. Tout mon système s'est basé sur la non-communication, non-communication avec les acteurs, non-communication avec les techniciens même. Alors, tout est une espèce de matériel, de performance, en fait, non? Où rien ne se répète. Tout est une espèce de, il y a une fatalité dans chaque moment d'enregistrement. Et après aussi, dans les montages, c'est la même logique. Moi, il y a des choses que j'aime, pour des raisons complètement différentes. Là, c'est, par exemple, dans ces cas, 300 heures de rushes. Je regarde tout, je souligne tout ce que j'aime. Et après, j'oblige, moi et les monteurs qui travaillent avec moi, de créer un film seulement avec les moments que j'aime. Mais parfois, ce sont des choses d'ordre totalement différent. À un moment, il y a un regard que j'aime. Là, il y a, je sais pas, les couleurs de la forêt. Là, la forme. Là, c'est tous ces dialogues. Là, c'est, je sais pas, les couleurs de les chaussures de quelqu'un qui se promène. Là, c'est les bruits de je sais pas quoi. Non? Et en essayant de construire un film cohérent, plus ou moins cohérent, mais seulement avec les choses que j'aime. Alors, il n'y a jamais, jusqu'à la fin du montage, ou même après, aucune idée de qu'est-ce que le film va signifier, ou quels sont, non? Quels sont, je sais pas, on ressent les points forts du point de vue esthétique, du point de vue formel, presque, mais c'est comme une espèce de processus scientifique, même pas artistique, à la fin. Alors, il y a vraiment réussir à mettre ensemble tout ce que j'aime.
Pourtant, vous dites des choses très clairement avec ce film-là. Quand vous faites dire au personnage,
c'est inévitable.
Nous avons besoin de femmes pour mener à bien notre révolution.
Oui.
Notre monde est en train de finir. Il faut des femmes qui aient envie de se faire écarteler, perforer, trouer.
Mais pour comprendre, des dialogues comme ça, il y avait centaines. Alors, si j'ai fait le choix exactement de ça, c'est pas parce que j'ai étudié concrètement chaque phrase. Parfois, oui, je peux aimer, non? Une phrase, je peux dire absolument cette phrase doit être là. Mais parfois, c'est ça, c'est dans les jugements d'une énergie, d'une puissance, dans chaque moment, et essayer de mettre ces moments ensemble.
Et maintenant que vous l'avez vu, vous avez l'impression que c'est un film Liberté, Albert Serra, qui porte un discours?
Oui, bien sûr, mais je ne sais pas lequel encore. Et c'est ça qui est pour moi même mystérieux. Surtout parce que, comme je travaille aussi avec beaucoup de, comment dire, avec la distance qu'il y a entre la personne, l'acteur, le personnage, non? Normalement, la plupart des réalisateurs ne travaillent qu'avec le personnage, non? Parce que c'est ce qu'il y a dans le scénario. Alors, l'acteur, en tant que professionnel, non? Pues, il s'adapte simplement, ou il essaye de reproduire l'image qu'il y a dans le scénario de ce personnage tel qu'il est. Mais moi, ça, je m'en fiche un peu, et je travaille comme Warhol ou comme des autres réalisateurs, non, dans cette friction entre la personne. C'est pour ça que, comme je vous disais, de faire l'observation de les qualités qu'ils ont déjà comme personne, c'est très important, et de les faire vite au début du tournage, parce que tous mes tournages sont très courts. Et après, il y a un autre très petit travail de pousser dans les côtés de la vanité de cette personne, c'est-à-dire quand il se sent tourné pour les caméras, quand il doit jouer avec des autres acteurs, là, le côté vanité devient très violent, très dangereux. Et là, il y a évidemment une autre dimension, non, de cette personne ou de ce corps qui peut donner des choses intéressantes. Et à la fin, évidemment, si on est dans une fiction 18e avec des costumes, etc., il y a les personnages à la fin, que c'est la clé de lecture. Mais pour moi, c'est toute cette confusion qui m'intéresse. Et évidemment, c'est encore plus difficile d'arriver à une, comment dire, à des significations claires, même par rapport au travail des acteurs, ou qu'est-ce qu'ils sont en train de dire exactement, ils ne le savent pas. Je crois que c'est l'un des cas les plus exagérés où les acteurs, cette année, quand j'étais à Cannes, qu'ils ont vu les films eux-mêmes, ils ne s'y reconnaissaient pas du tout. Parce que il y avait une espèce de distance tellement forte entre ce qu'ils ont plus ou moins vécu non, dans les tournages et l'image finie, non, qu'il y a de toute cette... De
et tout. Ça vous fait plaisir?
Ça m'est complètement égal. Mais j'ai dit que précisément, peut-être pour les sujets aussi, non? Les sujets, dès qu'il y a la nudité, dès qu'il y a non, un peu de, le côté un peu sexuel, non, c'est différent, c'est encore plus fort. On est, non, on est dans un monde plus instable par rapport à l'image de toi-même que tu connais, que tu essayes de projeter en tant qu'acteur pendant le tournage. Je crois qu'ici, le descontrôle, c'est beaucoup plus... Non, l'absence de contrôle, c'est beaucoup plus fort parce que tu ne peux pas gérer tout de ce qu'il y a de la nudité, je pense. Hein. Il y a une tension plus forte, tu es moins en contrôle de ton propre image, de comment gérer ton propre image en face de la caméra. Alors la surprise est beaucoup plus grande. En plus, le montage est tellement sophistiqué, tellement beau dans certains moments que ça donne... Comme le contraste que vous avez dit pour la première phrase, est très calme, non? La voix et la prosodie, mais ce qu'il raconte est très cru. Alors, aussi, le montage est très sensuel, est très, je sais pas, très séduisant, mais en même temps, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu plus sec, un peu plus désagréable.
Il s'agit de prendre des gens dans la vie qui ne jouent pas. C'est encore une autre chose, parce que vous pouvez prendre des gens dans la vie et qui jouent, on a l'habitude de jouer dans la vie. D'arriver à sortir d'eux, non pas ce qu'ils vous montrent, comme ferait un acteur, mais ce qu'il vous cache, d'arriver même ce qu'il ne soupçonne pas qui est en eux. Voilà, pour moi, quel est le matériau, la matière première du cinématographe. Je dis bien cinématographe, en opposition à cinéma, qui pour moi est ce qu'il est en ce moment, c'est-à-dire du théâtre ou du spectacle photographié. Or, il ne peut pas être un spectacle, parce que un spectacle exige la présence en chair et en os. Des deux côtés exige la présence de spectateurs, et l'autre côté d'acteurs ou de personnages agissant comme des acteurs. Je voudrais pouvoir dire des choses sans avoir l'impression de les répéter, mais j'ai déjà dit que le rôle du geste comme le rôle de la parole dans un film qui serait un film de cinématographe, de vrai cinématographe, serait absolument en opposition au rôle qu'a le geste et qu'a la parole au théâtre ou dans un spectacle. Pour moi, et ce serait admirable si on arrivait à vraiment sentir cela et pratiquer cette façon de faire des films, c'est que le geste et la parole dans le cinématographe ne seraient que des provocateurs.
Transculture, par les thèmes qui courent, Marie Richer avec un verset.
Sous mes yeux verts de gueule.
Claire Diterzi, tableau de chasse Albert Serra. Peut-être pour vous faire réagir à ce que je disais des regards humains, très très proches de regards animaux, en tout cas les regards d'animaux qu'on connaît, qu'on a peut-être déjà croisés ou qu'on imagine, et qui nous plongent dans un univers de proie, de chasse, de chasseur. Qu'est-ce que ça dit de vos intentions cinématographiques pour ce film Liberté ?
Bon, c'était aussi dans, à partir du décor qui est dans l'idée un peu de chasse, non? On est dans pleine nature, même si c'est une espèce de forêt légèrement artificielle, surtout par exemple parce que c'est déjà d'eucalyptus, que c'est un arbre que du point de vue historique, c'est pas possible qu'il soit là. Aussi parce que, bon, la façon de tourner cette forêt, c'est déjà un peu, avec la profondeur des champs, etc., un peu confus. Mais, je crois que c'est un espace de chasse, et moi j'aimais beaucoup cette idée de, en fait, le désir, non? Ça nous rapproche. Le désir, surtout le désir extrême, le désir violent, irrationnel, ça nous rapproche à les animaux. Et alors, l'idée de cet espace, et si vous regardez les films, moi, un de mes moments préférés, ce sont quand il y a des gens qui regardent, mais qui sont en bas, qui sont dans une position, comme vraiment, comme si c'était une espèce de lion ou de tigre, non? En train d'attendre pour attaquer quelques proies. Alors, aussi, quand il y a beaucoup de plusieurs fois, surtout à la fin, non? Vers la fin, ça va vers la fin, de gens qui font des actes sexuels sur le sol. Alors, comme si c'était aussi vraiment des animaux. Et moi, j'ai mis un petit peu cette petite évolution d'une espèce de nature qui est au début encore habitée pour une espèce de discours humain, etc., un petit peu perverse, d'enlever des novices, je sais pas, non? Des petits enjeux de perversion. Des aristocrates, etc., et qui petit à petit a voulu vers une ambiance plus trash, plus animale, plus abstraite même, où le côté décoratif 18e disparaît un petit peu et on rentre dans sans bouger de lieu, d'espace, de costumes, de personnages, mais on rentre dans ça, une ambiance plus abstraite, on peut vraiment projeter à partir de ce qu'on voit progressivement dans les films, tous nos fantasmes, qu'on peut vraiment, non, même comme spectateur, entrer dans cette logique de perception de la nuit, pas seulement pour les personnages.
Dans cet archive de 1966 qu'on entendait précédemment, le cinéaste Robert Bresson dit que le cinématographe qu'il sépare du cinéma de son époque doit être autre chose que du théâtre filmé, que du spectacle filmé. Or, si on a un sentiment factice à l'égard de cette forêt, progressivement, même à la fin, même on a presque l'impression que vous la filmez à dessein, comme un décor de théâtre, Albert Serra, c'est peut-être aussi le souvenir qui plane dans ce film que tout a été avant une pièce de théâtre. Qu'est-ce qui reste du travail théâtral que vous avez mené dans ce film-là ?
Il reste précisément toutes les choses qui ont été détestées dans la pièce de théâtre. Parce que dans la pièce de théâtre, moi, j'ai essayé de faire ça comme une espèce de pièce bien faite, apparemment, traditionnelle, mais avec de tous les éléments qui étaient distorsions, en fait. Mais subtilement. Alors, ça, c'était un théâtre en Allemagne. Et ça a été très détesté et très controversé. Parce que moi, je croyais vraiment, par exemple, à des certaines choses, dès qu'ils sont dans certains moments dans les films, dans l'intérieur des chaises à porter, où il y a les verres, où il y a, non? Pour moi, c'était comme des écrans, tout ça. Alors là, moi, par exemple, j'utilisais des microphones, pour, non, qu'on puisse entendre cette intimité dans le théâtre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, les gens chuchotaient, mais même avec le microphone exprès, je le faisais très bas pour pas l'entendre. Ou je sais pas, par exemple, tout ce qui était les mouvements, ou les textes même, parce que c'était une œuvre de texte, et j'ai mélangé des acteurs professionnels de théâtre allemand, etc., très expérimentés, avec des jeunes aussi de Facebook qui ne parlaient même pas allemand. Alors, et j'ai donné la partie la plus longue, la plus difficile du texte à les gens qui n'étaient pas des acteurs professionnels. C'était encore un autre sacrilège, non? Ou, je sais pas, la façon de bouger sur les scènes, il y avait un critique très drôle qui disait, un critique négatif, qui disait, 2 heures et demie d'acteurs perdus sur les scènes. Ce qui, je pensais, putain, c'est exactement ce que je voulais. La sensation que je voulais créer, vraiment, et avec ça, non, avec beaucoup de violence, J'ai eu beaucoup de tensions avec les acteurs parce que ils acceptaient pas ça. Surtout en théâtre, ils ont vraiment besoin de quelque chose où se peindre, soit dans une logique de l'espace, une logique de la parole. Non, ils ont très peur de sortir sur les scènes vraiment sans rien. Non, dans le cinéma, il y a les montages, il y a les plans, tout est plus chaotique, tu peux être confortablement là, non, sans avoir aucune idée, aucune fixation dans l'espace ou dans les temps, bon, qui est tourné d'une façon arbitraire, mais pas là. Alors, non.
Mais c'est parce que c'est aussi une grande prise de risque, on imagine, pour ces acteurs ou ces actrices, Albert Serra, si vous les envoyez sur scène comme ça, sans cadre, en disant allez avoir à votre perche, c'est ça qui m'intéresse.
Oui, c'est
Elle est où la vôtre de prise de risque dans tout ça?
Qui peut être un échec total. Et en fait, par exemple, cette œuvre, c'était très critiqué. Même s'il y avait des choses que je faisais ça parce que je voulais voir sur le théâtre des choses que j'avais jamais vues. Oh, j'étais fatigué de voir des acteurs professionnels tout le temps en train de crier, je sais pas, avec des messages super clairs. Moi, je vois les programmes de n'importe quel théâtre public européen. Et je peux vous dire exactement qu'est-ce qu'il va dire chaque pièce de théâtre, comment il va être fait, quelle est l'idéologie qu'il y a derrière avant de l'aller voir, seulement en lisant les catalogues. Alors, c'est vraiment très triste, non, d'arriver au théâtre et oui, la seule surprise c'est s'il va crier plus fort ou beaucoup plus fort ou quoi.
Mais ça manque quoi d'obscurité, de complexité, d'inconnu.
De complexité, de mystère, de poésie, ça manque de tout parce que c'est naturel. Ils ont besoin de l'applaudissement chaque jour, alors l'acteur a un besoin tellement fort de ça. Il pouvait pas, dans le cinéma, tu fais les films, tu t'en fiches. Quand tu es en train de tourner, tu n'as pas, bon, Bresson en parlait, non? Tu n'as pas de rapport avec le public. Là, il y a que les techniciens et tout ça. Tu es un peu à l'abri de la pression du résultat final et surtout d'avoir communication directe avec quelqu'un qui doit apprécier ce que tu fais. Alors, mais dans le théâtre, non, c'est de l'esclavage total. Et les acteurs, comme ils sont chaque fois, ils ont, comme je disais au début de la conversation, il y a aujourd'hui encore plus de peur à l'échec dans les théâtres, ça c'est extrême. Évidemment, si le public n'aime pas ça, n'arrive pas à se communiquer avec le spectacle, à faire des applaudissements, etc., tu es mort. Ils sont sentent ça comme une frustration tellement forte, ils ne peuvent pas supporter sortir sur les scènes et que le spectacle ne soit pas aimé ou compris. C'est impossible physiquement pour un acteur.
On va vers plus de clarté, plus de choses qui sont très intelligibles, plus de choses qui sont extrêmement énoncées.
C'est ce que j'ai déjà au début aussi. C'est que la pièce s'adapte au monde. C'est pas qu'il impose sa logique ou son style ou son rythme. Et en plus, il y a ça, Bresson en a parlé aussi, il a utilisé, je sais pas s'il a utilisé les mots, il a pas utilisé, mais il disait cette idée que pour lui, les acteurs, non, ils ont aucune signification, ils ont rien. Non, pour moi, c'est la même chose, c'est de l'opacité. Tous les éléments d'un film, ça inclut les acteurs. C'est de l'opacité. Alors, c'est pour ça que c'est absurde de se communiquer avec les acteurs. Que va communiquer, moi, je vais me communiquer. Pourquoi? Si je considère qu'ils sont totalement opaques, à aucun possible. Ça sera à la fin du tout du processus que peut-être, non, par hasard, ils seront capables, sans le vouloir, parce que c'était pas son intention, de donner quelque chose, non, quelque signification, ou je sais pas, quelque sens au moins. De ces questions.
Donc vous dirigez rien, vous ne dites rien, vous laissez faire.
Oui, je fais un peu, mais pour confondre plus, pour créer plus de chaos, pour les rendre encore plus opaques. Peut-être dans Bresson, il s'est conformé. J'ai la sensation, j'ai jamais vu Bresson diriger, ou je ne sais rien, comme il le faisait exactement, mais cette idée qu'il avait des modèles, non, d'avoir des modèles opaques, mais des modèles et de les utiliser comme ça. Je crois qu'il n'y avait pas, non, il restait assez intact, non, ces modèles. C'était comme une espèce de travail basé sur l'opacité, mais en même temps, sur une espèce de, non, de respect et de distance. Par contre, moi, j'aime un peu de créer un peu de la friction, le chaos déjà crée de la friction, et de modifier ces acteurs. Même si je les imagine opaques, mais j'aime de les modifier. Parfois, c'est pour le sport, simplement, parce que j'ai tellement aimé de la vanité des acteurs, même les plus sympas avec lesquels j'ai travaillé, ils ont toujours un côté désagréable comme êtres humains. pas tous, mais la plupart.
Alors, salutations à tous les acteurs et les actrices qui nous écoutent.
Non, mais c'est qui est, parfois c'est utile, ça. Ça donne le côté vaniteux et que sur l'écran, ça peut, non, faire apparaître des choses qui ne peuvent même pas apparaître d'une autre façon. Mais en même temps, non, ça me génère personnellement une haine, parce que, je sais pas, peut-être c'est quelque chose que ça vient quand j'étais jeune. Tous mes amis, ils ont étudié à l'Institut du Théâtre de Barcelone. Moi, non. Moi, j'étudiais de la littérature. J'étais un peu plus intelligent que eux. Mais mes amis et moi, j'étais souvent là. Je les cherchais, tout ça. Alors, j'ai connu, depuis que j'ai 17, 18 ans, j'ai connu les acteurs comme ils sont vraiment. Parce que là, on les croisait tout le temps. Et après, c'est ça la paradoxe, qu'il y a l'opacité, mais il y a la fragilité aussi. Non? Alors, des acteurs, ce qui est très, très beau, non? Parce que ça permet, c'est comme un peu
alors
la porte.
Alors, vous n'y haïssez pas complètement.
Pardon?
Vous leur trouvez de la beauté. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez du côté de la haine. En réalité,
oui, parce
vous
que
n'y haïssez pas
complètement. Non, je le disais simplement parce que j'aime le traiter avec beaucoup de respect, et beaucoup de distance, et beaucoup de, non? De le considérer vraiment dans sa souveraineté, de son opacité. Mais en même temps, j'aime d'interférer un peu. Et la seule façon que j'ai, c'est à travers de la haine. Parce que comme j'ai rien à dire, comme j'ai rien à communiquer avec eux, ou je ne sais rien de ce que le film doit faire ou ce que les acteurs devaient faire, à l'exception de ce que je puisse observer, non, dans la direction où ils sont forts, chaque acteur. Comme j'ai rien, la seule chose qui me permet un peu de, comme dire, qui me pousse, qui me fait bouger, qui me fait travailler un peu pour les modifier, pour les, comment dire, non, pour les modeler d'une certaine façon, même si je sais pas dans quelle direction, c'est la haine contre sa propre vanité. Et ça, c'est, et ça génère un peu d'une énergie spéciale que je crois que dans les images, non, on la ressent.
Et c'est qu'est-ce, pas qu'ils des... la... qu'est-ce qu'ils disent de ce tournage alors, ces femmes et ces hommes?
Non, je sais pas. Je crois que c'est parce qu'en même temps, quand est-ce qu'il y a de la nudité et tout ça, ça doit être joyeux un peu. C'est un équilibre fragile dans ces cas, parce que
vaut mieux qu'il y ait un peu de joie. Si tu t'es fait haïr pendant 3 semaines de tournage, vaut mieux que ce soit un peu
temps,
joyeux.
Mais parce qu'il y a aussi, non, comme dire, comme j'ai dit, si moi j'étais aussi d'acteur en ces scènes, au moins même je pourrais être acteur. Si j'ai considéré que je l'ai pu faire même, je ne les payerais pas à certains acteurs, mais je les ferais moi. Même. Alors, si je l'ai fait, c'est parce que je considère qu'ils sont mieux que moi, et beaucoup mieux, et même j'ai de respect pour ces qualités. Non, c'est pour ça que j'ai décidé d'être réalisateur et pas écrivain, comme j'avais étudié de la littérature. C'est parce que j'ai pensé que ça sera plus drôle, ça, de faire des films que de rester à la maison en train d'écrire. Et tout ça, qui est évidemment très, non, du point de vue artistique, il a un mérite plus grand. Mais
d'écrire des livres,
oui,
plutôt que de faire des films.
Oui, oui. C'est un autre avantage que j'ai, parce que je considère, même un mauvais écrivain que je puisse détester, je considère qu'il a plus de mérite que le plus grand réalisateur. Alors, ça, c'est un autre avantage de détachement par rapport à tout ce qui se passe dans les tournages, dans ma carrière en général, dans ma vie.
Vous pratiquez un art que vous ne,
que ne respectez
vous
pas.
N'estimez, vous
oui,
n'estimez
oui,
pas beaucoup.
C'est ça. Mais en même temps, l'équité joyeuse, c'est vrai que c'est là.
Ça vous donne un peu de détachement, du coup. Comme vous n'aimez pas trop le cinéma, faire du cinéma est assez léger.
C'est ça. Et ça te permet aussi, par exemple, de risquer un peu plus, parfois. Parce que comme tu n'es pas très obsédé pour ce qui puisse arriver à ce que tu fais, ça te permet de risquer. Et je sais pas.
En même temps, Albert Serra, la littérature est jamais très loin dans le cinéma que vous faites, par exemple, dans ce film-là.
À un niveau créatif, il est très, 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 très loin.
Peut-être.
L'effort qu'il demande, c'est très, très, très.
Peut-être, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais plutôt parler d'une forme de proximité, des lettres, proximité du texte. Dans ce film-là, il y a du verbe, il y a du texte. Il est extrêmement important tout ce moment d'énonciation des fantasmes, de la manière dont les choses vont se faire, de la manière dont on installe la parole. On pense à Sade, pourquoi pas. Mmh. Vous avez aussi travaillé près de Don Quichotte, mais on va écouter Annie Lebrun parler de ça, justement dans une archive de 1986.
Tous les romans libertins sont faits de la même façon. On commence du simple, on commence par un dépucelage, et après on occupe tous les lieux érotiques, toutes les zones érogènes. Alors que Sade, c'est l'inverse, Sade commence quand on a tout fait. Quand on a occupé tous les trous, quand tout a été fait. C'est libertin, c'est comme ça. Et donc, autant le libertin classique est à regarder dans la perspective de l'avoir, alors que le héros de Sade sont des personnages qui sont dans la perspective de l'être, et que d'un autre côté, le pervers, même s'il est polymorphe, est toujours prisonnier de sa perversion, alors que le héros sadien, lui, n'est pas du tout dépendant de sa perversion, mais au contraire, par l'excès qui l'habite, et c'est le moteur même du héros sadien, par l'excès qui l'habite, il est capable de vivre toutes les perversions. Et de ce point de vue-là aussi, je pense qu'il faudrait qu'il est toujours bon de rappeler ce que Sade lui-même dit au début des 120 journées, quand il, c'est-à-dire au début des 120 journées de Sodome, quand il annonce ce qui va se passer au cours de ce colloque à propos des passions humaines. Il s'adresse au lecteur pour dire. Dans le fond, on va te présenter 600 passions et perversions humaines. Il y en aura beaucoup qui ne te plairont pas. Mais il y en aura sûrement une ou plusieurs qui te coûtera du foutre. Et cela, je pense que c'est très important. Parce que là, on voit bien que ça n'a pas un propos encyclopédique qui toujours vise à la totalité, qui a toujours quelque chose de totalitaire. Qu'au contraire, ça ne cherche qu'à élargir l'horizon, pour que chacun, aussi bizarre soit-il, puisse trouver la perversion, puisse trouver ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique à Sade, qui est justement ce renversement définitif qu'il fait du particulier et du général. C'est-à-dire, contrairement à toute notre civilisation et à nos modes de pensée, qui fonctionne sur la prééminence du général sur le particulier, ça fait complètement basculer les choses et donne au contraire la prééminence du particulier sur le général, d'où sa critique de la loi, de tout ordre social.
Singularité et prééminence du particulier, c'est la voix d'Annie Lebrun dans un extrait d'une émission Nuit Magnétique en 1986, diffusée en 1986 sur France Culture, Albert Serra. En écoutant l'archive, vous mentionniez un livre d'Annie Lebrun, justement consacré à Sade, mais je pense que c'est intéressant de s'arrêter particulièrement sur cette idée-là, le singulier, la recherche du singulier, quel est ton plaisir, quel est ton désir. À un moment donné, il y a deux personnages qui échangent. Un homme qui demande à une femme, et toi tu imagines quoi, comment ça va se passer, puis elle énonce ce qu'elle veut, qui se passe, et il dit ah oui c'est bon, c'est un peu décevant, mais si c'est ça que tu veux, alors on va faire ça.
Oui, et il y a un autre aussi qui se réfère à ça, il dit, on lui a fait, je sais pas, qu'on lui a fait plusieurs choses, des choses qu'elle connaissait déjà, mais beaucoup d'autres qu'elle ne soupçonnait pas. Et comme si il a trouvé aussi des plaisirs dans certaines de ces pratiques qu'il lui en est obligé à faire. Et ce que dit Annie Lebrun, il explique un peu, non, que Sade n'est pas totalitaire parce que ce n'est pas comme une espèce d'encyclopédie. Au contraire, il y a parfois des gens qui éprouvent, non, des plaisirs qu'ils ne soupçonnaient pas dans des pratiques. Et tout le monde peut trouver, non, dans cette collection de pratiques, certaines qui vont s'adapter à sa propre perversion. Non. Et ça, c'est un peu intéressant parce que, bon, on parlait beaucoup de l'injustice, mais il y a aussi ce côté un peu comme innocent, non? Innocent de ça, de trouver dans la perversion, même si les mots, je ne sais pas, c'est un peu ridicule, mais dans certaines pratiques, un plaisir plus original que les plaisirs que tu as connus avant. C'est simplement ça, plus sophistiqué ou plus, je ne sais pas, plus, non, qui t'interpelle d'une façon, plus intime et plus personnelle et plus singulière que c'est le même, c'est adaptable à toi ou à des autres personnes, mais non, que principalement, toi, tu reconnais quelque chose là qui te traverse. Alors, dans les films, il y a un peu aussi cette petite démarche, mais même si c'est un film, tout est très simple, très simplifié, non? Moi, je connaissais très bien le livre d'Annie Lebrun, Sade ou Bloc d'Abîme, et il est génial, c'est probablement un des meilleurs livres sur Sade, mais il a une connaissance encyclopédique totale. Elle a une connaissance encyclopédique. Mais
justement, elle parle d'une recherche de non-encyclopédie, mais par contre d'un élargissement de l'horizon, c'est-à-dire plus on ouvrira aux singularités, plus on ouvrira aux particularités, plus l'horizon sera
c'est
large,
ça.
Albert Serra. Moi,
je suis totalement
Il y a beaucoup
d'accord.
de personnes qui ont écrit à propos de votre film que vous faisiez aussi cela, en élargissant l'horizon, parce que vous filmiez travailler des corps très différents et que chacun pouvait, dans son corps différent, rechercher son plaisir. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est assez vrai pour les corps d'hommes, ça ne l'est pas du tout pour les corps de femmes. Les corps de femmes qu'on voit à l'écran sont des corps qui répondent parfaitement aux normes de beauté qu'on connaît.
Ça, c'est un autre problème.
Et qui est intéressant à soulever, non?
Oui, mais à niveau de signification, c'est relevant parce que c'est un autre problème qui vient de les choix de montage qui ne sont pas faits de choix idéologiques. C'est-à-dire, évidemment, on avait ces corps de qui vous parlez, aussi des femmes, dans les montages, dans les tournages, parce qu'on avait tout genre de choses, mais pour des raisons qui sont pas...
Parce qu'à l'écran, ça donne en effet des hommes et des femmes qui cherchent leur plaisir, mais donc il y a des gros, des poilus, des laids, des très beaux, des gars, et puis... Par contre, les femmes, elles sont pas poilues, pas grosses, avec des très jolies petites fesses rebondies.
C'est dommage.
C'est hyper dommage.
C'est dommage et c'est un hasard, parce que ça s'était tourné, mais c'est pas dans les montages finaux.
Oui, mais il y a des gens qui vous diraient que le montage est politique et que c'est aussi un choix très important.
Moi, je crois pas, parce que rien de ce que j'ai fait dans les, comme je vous ai raconté, la façon de monter, les raisons sont jamais des raisons. Il n'y a que la puissance de l'image. Et après, c'est vraiment de ramasser ce morceau et d'essayer de créer un film. Et c'est pour ça que c'est intéressant de, non? Même moi, je sais pas qu'est-ce que le film veut dire, veut signifier. Je le regarde et moi, j'étais le premier surpris de comprendre. Après, moi, je l'ai juste comme un objet esthétique. Moi, tous les autres raisonnements.
Mais précisément, comme un objet esthétique. Et puis, les choix qu'on fait sont pas inoffensifs. Quand, par exemple, au début d'un film, on dit « Nous avons besoin de ces femmes-là pour mener à bien notre révolution, ces femmes-ci. » Et qu'ensuite, pendant 2 heures, on voit en effet ces femmes-là. Bon, c'est interpellant quand même.
Oui, oui. Mais, c'est-à-dire... nous, on a, en tant qu'artiste, les éléments, non? Avec la fabrication du film, c'est hasardeux, et plus dans mes cas. Alors, moi, je contrôle pas les éléments. C'est pas que je puisse décider, non? Qu'est-ce qui va arriver? C'est en performance, et dès que je vais travailler avec la personne, le personnage et l'acteur, que je travaille pas avec l'acteur, tout ça, c'est un hasard qui arrive. Si j'ai travaillé avec les personnages, je voulais dire quelque chose par rapport à les corps, ou des hommes, ou des femmes, ou de je sais pas quoi, oui, je serais conscient, j'aurais un cahier, dirais, ah oui, on a 3 femmes, c'est belle, on va choisir une autre pour faire cet équilibre, ou ça, je sais pas, j'aurais un cahier pour noter toute cette histoire. Mais, comme je travaille pas avec les personnages, je sais que j'ai à côté, alors, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème la lecture qui fait les gens de mes images ou de mes films. C'est fait avec l'innocence, pas de l'innocence, c'est fait avec, mais c'est plus que l'innocence, avec de la même singularité ou arbitrariété, non, qu'on parlait à propos de ça et à propos de ce qu'on voit dans l'écran.
Alors, la vôtre.
Oui. Mais même pas la mienne, parce que je contrôle pas beaucoup d'éléments. Et j'aime ça. Et j'aime aussi, par exemple, c'est ça ce qui est intéressant aussi. Moi, j'aime, dans mes tournages, qu'il y a une espèce de rébellion contre le réalisateur. Non? Une espèce d'une lutte de rébellion, ou rébellion.
Rébellion, ouais.
Rébellion, rébellion contre les réalisateurs. Normalement, quand il fait un film, il y a le réalisateur qui va dans une direction, non? Et tout le monde, non? De l'équipe, c'est une espèce de serviteurs dévoués, on va dire techniciens ou serviteurs dévoués, qui vont essayer de servir, non? Cette vision du réalisateur qu'il a déjà, et ils vont tous ensemble dans la même direction. Alors, ce que vous disiez, par rapport à ce qu'il y a dans l'écran, peut-être, dans ces cas-là, oui, dans la plupart des films totalement conventionnels, ennuyants, le réalisateur peut être responsable, parce qu'en plus, personne s'est révélé contre lui, alors il n'y a aucun processus évident, hein, évidemment, dans tous les tournages, il y a des processus dialectiques petits. Mais, c'est-à-dire, il y a comme une vision qui existait déjà, et qui va essayer d'être représentée, ou de s'incarner dans l'écran. Pas de mon cas, au contraire. Moi, je provoque aussi, j'aime, un petit côté de rébellion, même dans les côtés des techniciens, dans les côtés des acteurs, etc. Alors, dès que je provoque, j'aime ça, et je pense que ça enrichit les films de façon différente, c'est encore plus, comment dire, plus imprévisible. Tout ce qui va arriver au niveau de vision, et spécifiquement au niveau de vision idéologique dans les images. Et ça, c'est la beauté des images, qui sont déjà dans tous les cas, idéologiquement très ambiguës, non? Et ça, c'est le pouvoir et la force de l'image. Et dans ces cas, même l'ensemble, la façon d'organiser ces images qui sont en soi déjà très ambiguës, c'est encore plus ambigu. Alors, non, c'est le potentiel qu'il a que le cinéma. Parce qu'en plus, il y a l'image en mouvement, non? L'image fixe et nouillante. Parce que c'est, il n'y a pas la moralité. La moralité, c'est l'espace de temps, non? Qui donne une évolution de notre perception, etc. Alors là, cette force d'ambiguïté, je crois que c'est le potentiel le plus grand et que même la littérature ne peut pas, y arriver, non? Et ce qu'on voit normalement.
Ah, finalement, c'est quand même
voit,
le cinéma.
Oui, oui, c'est la seule chose. Mais normalement, ce qu'on voit, c'est de réduire, non? Tous les réalisateurs sont en train, à partir de cette obsession pour les personnages, pour les discours idéologique, etc., à réduire cette ambiguïté potentielle extrême qui singularise le cinéma au-dessus de la littérature, par exemple, la réduire, la simplifier, la tuer et la considérer que tous les éléments sont transparents et qu'ils sont capables d'apporter quelques significations claires. Alors, c'est tout le contraire de les penser comme avec l'opacité, même dans les choix de montage, même dans les... Alors, je ne sais pas. C'est une autre façon complètement différente de travailler et qui est, comment dire, c'est pas, qui est à l'abri de certaines contraintes et que parfois, ça, non, peut jouer avec une potentiel visuel beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça que mon obsession, c'était souvent de créer des images inédites. Des images, certaines images dans les films en moi, qu'il y a une atmosphère qu'on n'a vu pas avant. Et je crois que dans ces films aussi, même dans les films de Louis XIV, qui étaient peut-être plus légèrement plus conventionnels, etc., et surtout dans un film précédent, Histoire de ma mort, qui était plein de moments comme ça, des moments où tu vois et tu dis, mais c'est quoi ça? Tu n'as jamais vu une image avec cette atmosphère, des gens qui psychologiquement, non, les gestes qu'ils font, non, les phrases qu'ils disaient. Il y a plein de noms, mais il y a certains dans ce film aussi.
Ben, bravo.
Oui, oui. C'est une obsession et pour moi, ça justifie presque toute la démarche de que je puisse arriver à faire pour, non, dans n'importe quel film. C'est des détails, c'est des images uniques qui n'ont pas existé avant.
Liberté, c'est en salle en ce moment. Merci beaucoup, Albert bon. Serra.
Merci à vous.
À la prise de son ce soir, c'était Jean-Michel Bernaud. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain Debecq de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Lucie Riandet. Vous pouvez réécouter l'émission sur l'application France Culture, mais aussi sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de l'émission. Dans un instant, c'est le journal de 22h. Très belle soirée sur France Culture.
Tout est à... Trouver ton bonheur dans mon corps et dans mon cœur. Tant d'illusions ont disparu au bord de la mer, au long des promenades. Tout est amour et le reste. Malentendu, notre dernier feu d'artifice, c'est un bien paisiblement. La vie n'est pas si longue, la vie n'est pas si rose. Mais je veux ma vie sans rien, même sans lumière. Tant de paroles ont disparu dans la pluie d'Ostende, sous la neige des Alpes, tout est amour et le reste malentendu, notre dernier feu d'artifice, c'est un bien paisible.